Les trois arbres de Montmartre. Il était une fois trois arbres de Paris qui étaient devenus amis. Ils avaient poussé ensemble au sommet d'une colline qui surplombait la ville. Au fil des ans, leurs branches s'étaient mêlées. Ils semblaient n'avoir plus qu'un seul feuillage. Mais le drame de ces trois arbres fiers, c'est qu'ils n'acceptaient pas de vieillir. Devenaient aigris, rongés par le ressentiment. Aussi passaient-ils leur journée à se lamenter. Le premier geignait ainsi. « Je sers de pissotière aux chiens des vieilles rombières, alors que mon bois précieux pourrait contenir de l'or, des pierres. Cette pollution est un poison, j'étouffe, toussait le deuxième. Dire que j'aurais pu grandir sur les rives de l'océan et devenir un navire au sillage puissant. Oh, ne vous plaignez pas, les amis, dit le troisième. Moi, les touristes s'adossent à mon écorce pour engloutir leur pique-nique, puis abandonnent leur saleté à mes pieds. Je ne suis qu'une poubelle, alors que je pourrais décorer l'archevêché. Les trois arbres gémissaient sans cesse, de jour comme de nuit, saison après saison, jusqu'à ce que trois bûcherons de la municipalité viennent les ausculter un beau matin. Hélas, ils sont malades eux aussi, comme tous les marronniers d'Île-de-France, décréta le chef. Le bois est encore bon, mais les feuilles sont abîmées, il faut les abattre. Nous reviendrons demain avec les tronçonneuses. Muets de stupeur, saisis d'horreur, les marronniers condamnés hurlèrent de douleur. Si j'avais su, j'aurais souri aux vieilles dames et j'aurais caressé leurs chiens de mes feuilles, lâcha le premier. Et moi, j'aurais respiré à plein tronc le bon air de Paris, car on ne vit pas si mal ici après tout, soupira le deuxième. Oh, ils étaient si gentils, ces amoureux à qui j'offrais le gîte et le couvert de mon ombre. Comme ils vont me manquer, se lamenta le troisième. Mais n'était-il pas trop tard pour pleurer et pour regretter ce qu'on n'avait pas su vivre, ce qu'on n'avait pas su voir, ce que l'on n'avait pas su donner? Le lendemain matin, les trois bûcherons arrêtèrent leur camionnette devant les trois arbres de Montmartre. Car cette colline de Paris s'appelle Montmartre. Le mot signifie « mont des martyrs ». Là, des chrétiens, dans les premiers siècles après la mort de Jésus-Christ, ont suivi l'exemple de leur maître. Ils ont donné leur vie plutôt que de renier leur foi. On leur a coupé la tête. Depuis, sur cette sainte colline, des chrétiens prient. On y a même construit une immense basilique qui ressemble à une grosse meringue. Les croyants s'y relaient jour et nuit pour adorer Jésus présent dans une grande hostie. Cette prière coule sur la ville comme une cascade invisible. Elle baigne même les arbres du quartier et les touristes. Quand leur dernière heure fut venue, les trois marronniers de la butte Montmartre décidèrent d'imiter les martyrs d'autrefois. Ils tombèrent comme des braves. Le premier arbre fut emporté par un artiste peintre de la place du Tertre. Il en fit des chevalets pour ses toiles et un berceau pour le bébé que sa femme attendait. Construisit le petit lit au fur et à mesure que le ventre de celle-ci s'arrondissait. Le deuxième marronnier, celui qui rêvait d'être un bateau, fut exaucé, mais pas comme il l'imaginait. Il y avait en bas de la butte un manège de chevaux de bois et de jolies nacelles. Le propriétaire tailla dans son tronc un fier galion. Les enfants aimaient s'y installer en rêvant à de lointains voyages. Quant au troisième arbre, il roula jusqu'au bas de la colline. Il cogna contre la porte d'un menuisier. Celui-ci le découpa en poutres qu'il laissa sécher dans un coin de son atelier. Des jours et des nuits passèrent. Vint le temps de Noël, peu avant la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. La femme de l'artiste peintre mit au monde un petit garçon. Ses parents le prénommèrent Jésus. Le curé de Montmartre les invita à la messe de minuit. Ce soir-là, au milieu de la crèche vivante mise en scène dans le cœur de l'église, on vit un bébé dans un berceau de bois qui ressemblait étrangement à Jésus dans la grotte de Bethléem. Et soudain, le premier arbre sut que sa vie n'avait pas été inutile et qu'il portait le trésor le plus précieux du monde. cette même nuit de Noël, le patron du manège de la butte voulut faire une bonne action. Alors qu'il montait à la basilique, il croisa une famille de pauvres gens qui mendiaient. Il invita parents et enfants à la messe, puis leur proposa un réveillon dans son manège avec du rôti, des bonbons, du vin chaud et de la limonade. Il leur offrit surtout des tours de manège autant qu'ils en voulaient. Et les enfants se mirent à tourner dans les nacelles et dans le bateau doré. La petite Lydia rit aux éclats pour la première fois. Les lampions virevoltaient autour de ses cheveux bruns. Ses dents blanches semblaient des étoiles scintillantes dans le ciel d'hiver. Alors le deuxième arbre sut qu'il n'avait pas été inutile, car il avait rendu une fillette heureuse. Un unique souci gâchait un peu la joie des deux marronniers. Qu'était devenu leur compère, le troisième arbre? Le galion doré apercevait souvent le petit Josua dans son berceau, poussé par sa maman. Il espérait l'accueillir bientôt à son bord, dès que l'enfant aurait grandi. Mais qu'était devenu leur troisième ami? Quelques mois plus tard, les chrétiens s'apprêtaient à célébrer comme chaque année la Passion du Christ. C'était le Vendredi Saint. Ce jour-là, l'archevêque de Paris menait une grande procession à travers le jardin qui montait jusqu'à la basilique de Montmartre. Vers midi, le curé demanda au sacristain « Gédéon, savez-vous où est passée la grande croix que doit porter Monseigneur? Je ne la retrouve pas. » « Oh, j'ai oublié de vous dire, monsieur le curé, j'ai dû la brûler, car son bois était pourri. »« Comment? Mais vous ne pouviez pas le dire plus tôt, Gédéon? Mais comment célébrer la Passion sans croix? Filez donc chez Marcel, le menuisier du bas de la butte, et demandez-lui de nous fabriquer une nouvelle croix en vitesse. » L'archevêque sera là dans une demi-heure. « Allons, allons, vite, vite, dépêchez !» Et tandis que le curé s'arrachait les rares cheveux qui lui restaient, Gédéon dévala la colline sans demander son reste. « Marcel, Marcel » cria-t-il tout essoufflé en rentrant dans l'atelier. « Sauve-moi vite la vie, je t'en supplie !» Gédéon lui expliqua la situation. Le menuisier râla un peu, mais il était bonhomme, dans le fond. Il se gratta la tête, puis le menton, et réfléchissait. Au bout d'un moment, il ramassa deux poutres qui traînaient dans un coin et les cloua ensemble, l'une verticale, l'autre horizontale. Cette croix pesait très lourd, mais son bois sentait très bon. Marcel la transporta avec Gédéon jusqu'au jardin. La procession allait commencer. En voyant arriver la croix, le curé s'écria « Jésus, enfin !» Les deux hommes calèrent le bois sur l'épaule de l'archevêque qui, sentant le poids du fardeau, poussa un soupir. Marcel le rassura. « Monseigneur, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier. » Et puis, mes amis et moi, on va vous donner un coup de main. » Ils s'y mirent tous, les copains de la butte, le peintre de la place du Tertre, le patron du manège, le sacristain Gédéon et le menuisier Marcel, et même monsieur le curé. Ensemble, ils aidèrent l'archevêque à porter la croix durant la procession, suivi par des centaines de pèlerins. Parmi eux, Josua, dans son berceau de bois, poussé par sa maman, et Lydia, qui n'oublierait jamais la traversée de Noël dans son galion doré. Dans quelques heures, on célébrerait la résurrection de Jésus, Pâques. Cette fête signifie que la mort est vaincue et que jamais, jamais les ténèbres n'étoufferont la lumière. Alors le troisième arbre sut que sa vie n'avait pas été inutile et qu'aucune existence n'était perdue si elle était donnée. Lui, le pauvre marronnier malade, n'était-il pas devenu au soir de sa vie l'instrument du salut de Dieu? N'était-ce pas un signe merveilleux d'espérance? L'arbre mutilé en pleurs d'émotion et de reconnaissance. À cet instant, l'archevêque sentit couler comme des larmes de sève le long de son cou. Ce n'était pas désagréable du tout. Cela ressemblait à une caresse d'amour. Ce qu'il ne vit pas, l'archevêque, c'est que tout proche, un berceau d'enfant et un bateau de manège pleurait aussi, car ils s'étaient retrouvés, les trois arbres, les trois amis.